commence avec les grands titres de l'actualité. Donc pour ce 21 octobre, l'heure est critique en Catalogne. Le gouvernement espagnol se prépare à contrer les avances indépendantistes de la région. Une explosion à Kaboul, en Afghanistan, fait 39 morts. C'était dans une mosquée chiite. En Australie, la question de l'euthanasie dans le Victoria qui fait débat. Deux anciens premiers ministres australiens s'y opposent. Que va-t-il donc se passer en Catalogne? Le roi d'Espagne dénonce une tentative inexplicable de sécession. Philippe VI a qualifié la région de partie essentielle de l'Espagne du XXIe siècle. Aujourd'hui, une réunion exceptionnelle du Parlement aura lieu, un conseil extraordinaire qui pourrait déclencher l'article 155 de la Constitution, article qui permet de suspendre l'autonomie de la Catalogne. Que va faire concrètement le gouvernement? Élément de réponse avec Gabriel Colomet, il est professeur en sciences politiques à l'Université de Barcelone.
Ce qu'il peut faire, il va prendre une partie de l'autonomie des Catalans et surtout, la chose la plus importante qu'ils vont décider demain, c'est convoquer des élections en Catalogne au mois de janvier, c'est-à-dire une période très courte de suspension de l'autonomie pour qu'il y ait les élections au mois de janvier.
Et du côté de la réaction du gouvernement catalan, qu'est-ce qu'il peut se passer ?
La réaction, c'est avant que s'applique l'article 155, vendredi 27 octobre, la réaction du gouvernement catalan sera, pourrait être, proclamer la République, premier scénario. Deuxième scénario, c'est je proclame la République et en plus, c'est moi qui fais la dissolution du Parlement et je convoque les élections constituantes d'une nouvelle République.
Voilà, donc Gabriel Colomet, professeur de sciences politiques à l'Université de Barcelone, était joint par la rédaction de RFI. On écoute également eh bien, le Premier ministre espagnol, Mariano Rajoy.
They have broken the rule of law, a basic principle of the European Union. They have deprived the representatives of the opposition of their right to exercise control in government. Imagine if I decided to close Parliament so nobody could question me. It would be a scandalous situation.
Ouais, donc le Premier ministre espagnol Mariano Rajoy. Nouvel attentat en Afghanistan, cette fois-ci contre une mosquée chiite. La minorité religieuse dans le pays est très souvent prise pour cible. Il y a au moins 39 morts. Sonia Ghazali.
L'attaque a commencé en début de soirée. Un kamikaze s'est fait exploser dans la mosquée Imam Zaman quelques minutes avant la prière du soir en ce vendredi saint pour les musulmans. À un moment donc où les fidèles étaient nombreux dans la salle de prière. Un autre homme armé aurait ensuite ouvert le feu selon certains témoins sur place. Cette mosquée est fréquentée par les musulmans chiites de la capitale afghane. Elle se trouve dans un quartier dans l'ouest de Kaboul, le quartier d'Ashtebarchi, qui est majoritairement habité par la minorité religieuse chiite, minorité Hazara. Le 26 août dernier, cette communauté avait déjà été prise pour cible à Kaboul. 28 personnes au moins avaient été tuées dans une attaque. Une cinquantaine d'autres blessées. L'attentat avait été revendiqué par le groupe État islamique qui avait procédé selon le même mode opératoire que celui utilisé par les assaillants ce soir, à savoir une attaque suicide suivie ou précédée d'une fusillade. Depuis son implantation dans l'est du pays il y a 2 ans, le groupe État islamique ne cesse de s'en prendre régulièrement à la minorité chiite en Afghanistan.
Reportage de Sonia Ghazali à Kaboul, donc pour RFI. 13h04 en Syrie et 3 jours après la reprise de la ville de Raqqa des mains de Daesh. La libération de la ville n'a pas encore été officialisée. Il y a toujours la menace de cellules dormantes et le danger de mines qui n'a pas été écarté. Le retour des populations civiles n'est donc pas encore possible. On écoute le colonel Steger qui revient sur la situation sur place.
Pour que la libération soit complète, il reste encore à chasser les derniers combattants de Daesh qui se situent sur quelques poches de résistance à l'est du stade. Raqqa, à l'origine de l'offensive, les estimations étaient de l'ordre de 2500 combattants, ramenés à 500 au début du mois. Et donc à l'heure actuelle, justement, l'un des enjeux consiste à pouvoir préciser, recouper cette information. Il est à noter malheureusement que le retour des populations civiles ne va pas être possible de façon très rapide avant de longues semaines, tant le nombre de pièges dans engins explosifs de tout ordre laissés par Daesh est important. Donc Daesh, certes, perd du terrain, certes, perd des territoires. Pour autant, la menace reste présente et le risque de combattants terroristes qui se disséminent dans le territoire reste particulièrement présent. Il y aurait encore de l'ordre de 6 à 7 000 combattants de Daesh sur la zone syro-irakienne. Pour les forces aériennes françaises, il n'y a pas eu de frappe la semaine passée, ni d'artillerie, ni aérienne, et des sorties qui étaient prévues, mais qui n'ont pas donné lieu à des frappes.
Ouais, donc le porte-parole de l'état-major des armées françaises, le colonel Patrick Steger. Le Liban a voté son budget après 3 jours de débat, une information qui, à première vue, pourrait être banale, sauf que c'est la première fois depuis 2005 et l'assassinat de Rafik Hariri, l'ancien Premier ministre, assassinat qui avait plongé le pays dans une grave et longue crise politique. Le vote de ce budget est donc un tour de force. Abla Djoudaïdi.
Un exploit, le mot est de Saad Hariri, le Premier ministre, car 12 ans après l'assassinat de son père dans un attentat qui a accentué les divisions entre les factions politiques du pays, les députés libanais ont surmonté leurs divergences et adopté la loi de finances. Depuis 2006, c'est par un système dérogatoire qui prévoit des avances du trésor que l'État libanais assumait ses dépenses au mépris de la Constitution, selon les députés de l'opposition. Des députés qui rappellent que le budget voté aujourd'hui est celui de l'année 2017 qui prend fin dans 2 mois, alors qu'en principe, c'est le budget de 2018 qui devrait à cette époque de l'année être débattu. Les opposants dénoncent encore le fait qu'aucun bilan comptable n'a été réalisé pour les 12 années précédentes, risquant de passer sous silence de potentiels faits de dilapidation des deniers publics. Mais pour le gouvernement, il était important de remettre le Liban sur la voie d'un cycle budgétaire normal pour renforcer le contrôle du Parlement sur les finances publiques et à entamer enfin les réformes économiques dont a besoin le pays. Et d'abord, répondre au défi de la dette qui représente 157% du produit intérieur brut, un record qui place le Liban au 3e rang mondial derrière le Japon et la Grèce.
C'était Abla Djoudaïdi pour RFI. Dans le Queensland maintenant, les autorités ont confirmé avoir retrouvé le bateau de pêche disparu avec 6 hommes à son bord. Les recherches ont repris ce matin afin de retrouver les corps des pêcheurs. Il y aurait un seul survivant, Ruben McDornan. On écoute la personne qui l'a sauvé, Mal Priday.
He sat on the hull until about 11:30 or 12 o'clock that night. When the boat sank, he then was in the water. All he had was a pair of shorts, no life jacket, no flotation device, no debris to hang on to. We were so grateful ourselves that we're in the right place at the right time. We're sorry we couldn't do more, but by the time we got there, that was beyond our control.
Ouais, donc Mal Priday qui a sauvé le seul survivant de ce bateau de pêche dans le Queensland. La question de l'euthanasie dans le Victoria et 2 premiers ministres qui se disent prêts à faire barrage à cette loi. Le gouvernement travailliste donc du Victoria présentera son projet de loi au Sénat après que ce dernier soit passé au Parlement. Mais Paul Keating et Tony Abbott veulent s'y opposer. On écoute le président de l'association des médecins australiens, Michael Gannon, qui lui également s'oppose à cette loi.
What we will be doing is putting our statement in front of members of the Legislative Council, asking them to perform their duty as the House of Review to make sure that they can't do something better for the citizens of Victoria when it comes to better end-of-life care.
Voilà, donc le président de l'Association des médecins australiens, Michael Gannon. 13h09 en Europe, le sommet économique de l'Union européenne a pris fin hier. Sans avancée notable sur la question du Brexit, les 27 regrettent le manque de progrès sur la facture que devra payer le Royaume-Uni, notamment. Et lors de ce sommet, la France a proposé une réforme économique, mais les propositions d'Emmanuel Macron ont du mal à convaincre. Reportage Anissa El Jabri.
Il avait imposé le sujet au dîner des chefs d'État jeudi soir. Le commerce, les traités de libre-échange de plus en plus mal acceptés par les opinions. Emmanuel Macron.
J'ai souhaité clarifier la position française, rappeler à cet égard la nécessité d'une politique équilibrée entre ouverture et protection pour recréer la confiance dans les échanges commerciaux.
Sauf que pile, pendant que le président parle, Jean-Claude Juncker dit à peu près le contraire. Le président de la Commission européenne l'assure, il faut tout faire pour un accord commercial avec l'Amérique latine avant fin 2017. Sur la taxation des géants du numérique, l'autre proposition française en discussion, les 27 ne sont pas non plus tous enthousiastes. Le président préfère voir le verre à moitié plein.
Durant l'été, nous avons eu des propositions concrètes de taxation des acteurs du numérique. Il y a un an de cela, personne de penser raisonnablement qu'on puisse avoir des propositions de ce genre. Il faut toujours se rappeler d'où on vient.
Emmanuel Macron compte encore mettre d'autres propositions sur la table dans les prochaines semaines sur les garanties sociales et environnementales dans les traités de libre-échange.
Rassurez-vous, j'ai toujours autant d'énergie.
L'activisme du président français sur la scène européenne va-t-il rencontrer un écho chez ses partenaires ? Emmanuel Macron a en tout cas lui-même fixé l'heure de vérité. Ce sera au printemps prochain.
Reportage d'Anaïssa El Jabri pour RFI depuis Bruxelles. On passe au sport dans ce journal du football. La A-League, match nul entre Adelaide United et Melbourne Victory, 2-2. On écoute Marco Kurz, l'entraîneur d'Adelaide. Donc après ce match, il est déçu de ne pas avoir pu marquer un troisième but malgré la forte domination de son équipe.
After the second goal, we missed calm in our game. I think it goes from the end to the end and it's a very close game and we have not the clear opportunities to score the third goal.
Voilà donc Marco Kurz, l'entraîneur d'Adelaide United. Ce soir, Perth Glory rencontre les Central Coast Mariners. Les deux équipes sont toujours à la recherche de leur première victoire cette saison. Le coach de Perth, Kenny Lowe, se dit confiant.
We've got firepower, we've shown that. We need to be frugal at the back and not concede goals. That's the big thing. They're a good side. They play some great football and they're dangerous. They've signed some good foreign players. They've signed some good foreign players that know the league also that have played in Australia. So, you know, they're in a good spot. I think, what was it last year? 3-3 and 3-2, I think the games were, something like that. So, it's got the makings of a bumper.
Voilà donc le coach de Perth Glory, Kenny Lowe. La météo dans le pays pour aujourd'hui. Perth, il fera 31 degrés. Adelaide, 20. Melbourne, 16 degrés. Hobart, 18. Canberra, 22. Sydney, 20 degrés. Brisbane, 21. Cairns, 30 degrés. Et Darwin, 34 degrés. Un retour sur les grands titres de l'actualité pour aujourd'hui. L'heure est critique en Catalogne. Le gouvernement espagnol se prépare à contrer les avancées indépendantistes de la région. Une explosion à Kaboul, en Afghanistan, fait 39 morts dans une mosquée chiite. Et en Australie, on vient d'entendre la question de l'euthanasie dans le Victoria qui fait débat. Deux anciens premiers ministres s'y opposent.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench